Il est quelle heure ?
Midi.
C'est midi. Midi à ta porte.
Un coup d'œil sur la vallée.
Un clin d'œil à l'actualité.
La vie au coin de la rue.
Le quotidien local et rural saisi sur le vif.
Ou mijoté à petit feu.
Ça pétille.
Ça grésille.
Chaque jeudi midi.
Au reportage.
Reportage.
Magazine. Interview.
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 Ça parle de tout.
Ça parle de vous.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Midi à sa porte pour une émission consacrée aujourd'hui au cinéma d'animation. Lundi prochain, le 23 mars, démarre en effet le Festival d'un jour. C'est, je cite, « la grande fête du cinéma d'animation ». Festival d'un jour assez mal nommé d'ailleurs parce qu'en fait ça dure une semaine. C'est jusqu'au dimanche 28 mars et le festival se déploie en projection à Romans, Chabeuil, Guilherand-Grange, Montméran, bref, dans une dizaine de communes autour avec comme épicentre le site de la cartoucherie à Bourg-lès-Valence qui est devenu depuis quelques décennies, je dirais, un pôle de l'image animée. Festival d'un jour, c'est l'occasion donc d'aller voir des films d'animation, de rencontrer des autrices et auteurs, mais aussi de visiter les ateliers pour voir en vrai, pour comprendre ce truc dingue de minutie, de sensibilité, de patience et d'acharnement qu'est la fabrique d'un film d'animation. Pour parler de ces métiers et de ces savoir-faire multiformes, on accueille aujourd'hui à la radio la réalisatrice Sophie Rose et le réalisateur Pierre-Luc Grangeon. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Merci d'être là. Vous habitez dans la vallée et vous êtes donc au cœur de la fabrique du cinéma d'animation. Et vous n'êtes pas les seuls puisque ici c'est un peu particulier. Je citais la cartoucherie de Bourg-lès-Valence. Il y a aussi plein de studios d'animation, on en parlera peut-être. Il y a bien sûr Folle Image, qui est peut-être le plus historique, je ne sais pas. Vous pourrez me compléter. Et puis il y a cette école, la Poudrière, magnifique non ? Qui forme à l'animation traditionnelle depuis la fin des années 90, je crois. Et autour de tout ça gravitent des tas de gens comme vous, complètement fous et passionnés. Alors on va parler de vos films, et notamment de ceux qui ont été récompensés un peu partout dans le monde récemment. Je les cite. Une guitare à la mer pour toi, Sophie. Film en stop-motion marionnette. Vous me corrigez à chaque fois, je dis des bêtises.
Ouais, non, c'est juste.
Parfait, c'est bien ça.
Et puis les bottes de la nuit pour toi, Pierre-Luc. Fabriqué à l'écran d'épingle. On va préciser ce mystère un peu plus tard.
Oui, j'expliquerai.
On va aussi parler, si vous êtes d'accord, des films que vous préparez. De ceux auxquels vous collaborez de plein de façons et plus généralement de tous les métiers que vous exercez tous les deux. Tous les métiers, vous allez voir, ce n'est pas une façon de parler parce que ce qu'il faut dire quand même, et je crois que c'est vrai pour le cinéma en général, c'est que la notion d'équipe est au cœur de la fabrication des films. Et vous le savez bien puisque vous travaillez ensemble depuis combien de temps ?
Une vingtaine d'années,
c'est
peut-être.
Ça.
Voilà, et que vous partagez même un atelier, je crois, que vous êtes amis. Bref. Mais d'abord, donc, j'aimerais qu'on commence par un peu de pédagogie pour les novices comme moi. Sur le site internet de la cartoucherie, ça énumère les techniques de cinéma d'animation. Alors, il y a 2D, 3D, stop motion, jeux vidéo immersifs, documentaires. Vous, ce que vous faites tous les deux, je crois que c'est de la technique d'animation traditionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordinateur ?
Alors, qui répond ? Vas-y, Sophie.
Oui, il y a quand même des ordinateurs qui permettent, en fait, qui sont connectés à des appareils photo. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la stop motion. Donc, c'est de l'image par image, mais qui est captée par un appareil photo qui vient prendre en photo soit des marionnettes, soit du papier découpé, des matières. Ça peut être de l'écran d'épingle ou du plâtre animé ou du sable, etc. Et en fait, ces images-là, donc, elles sont prises en photo par un appareil photo, un gros appareil photo réflexe numérique. Mais ensuite, elles sont envoyées dans l'ordinateur et d'ailleurs, on déclenche l'appareil photo depuis l'ordinateur. Donc, on a quand même besoin d'un ordinateur pour emmagasiner toutes ces photos.
Et surtout, l'ordinateur nous permet de voir toutes ces photos diffusées les unes après les autres, comme un film, et nous permet de voir le film qu'on est en train de fabriquer. Et donc, de vérifier au fur et à mesure où on en est de notre animation.
Donc, stop motion, j'ai lu aussi que c'est une animation en volume, c'est ça ?
C'est... Alors là, ça se discute. Pour moi, c'est tout ce qui est, je pense Sophie, c'est pareil, c'est tout ce qui est animé direct sous caméra.
C'est ça.
Donc c'est pour ça qu'elle citait le sable, qu'elle citait l'écran d'épingle. Ou Mais c'est souvent lié au volume, effectivement, la marionnette animée. Donc qu'on anime, qu'on fait bouger image par image et qu'on reprend en photo à chaque fois après l'avoir fait bouger.
D'accord. Alors, comme beaucoup de personnes dans le secteur, vous cumulez tous les deux les fonctions au sein de l'équipe des films. Vous écrivez, vous illustrez, vous fabriquez des marionnettes ou des décors. Vous animez donc image par image. Autour de vous, il y a des gens à la caméra pour la lumière, pour le son, des comédiens pour les voix, des gens pour la musique. Alors, ça marche comment ? Par exemple, si on prend l'exemple d'un film en volume, c'est quoi les grandes étapes techniques ? Enfin, je veux dire, une fois que l'histoire existe, quoi. Donc, il faut fabriquer. Est-ce que vous pourriez nous détailler les étapes ? Parce que c'est quand même assez incroyable.
Alors, je vais parler de mon dernier film, donc Une guitare à la mer. Donc, effectivement, une fois que j'ai écrit toute l'histoire, que j'ai mis en scène aussi via le storyboard, qui est une sorte de bande dessinée du film qu'on fait préalablement avant de lancer la fabrication du film, je travaille avec toute une équipe. Et donc, il y a ce temps, effectivement, de fabrication des marionnettes, des décors qui prend un certain temps. Là, par exemple, pour Une guitare à la mer, on a travaillé pendant 5 mois avec toute une équipe, en tout, je pense, une vingtaine de personnes pour la fabrication, à la fois des marionnettes, des décors. Et ensuite, il y a l'étape du tournage où tout ça, on va le mettre en place dans des studios de tournage. Et on va faire ce qu'on appelle, on va créer différents plateaux dans lesquels on va mettre en scène ces petites marionnettes dans les décors. On va les éclairer. Et là, ça sera l'étape de l'animation image par image pour fabriquer le mouvement de ces marionnettes et toute la vie du film. Et ensuite, il y a l'étape effectivement du son. Même si les voix sont enregistrées au préalable, en fait, on se cale sur les voix des comédiens pour animer les personnages. Et ça, c'est pas que pour la stop motion, c'est tous les films d'animation en général. On procède toujours de cette manière-là. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de son, de bruitage. Donc tout ça, il faut le créer après. Et puis jusqu'à l'étape du mixage où on fait l'équilibre entre tous les sons, la musique, etc. Et l'étalonnage où on va régler les couleurs du film.
Est-ce que tu veux donner un autre exemple, Pierre-Luc ?
Non, c'était très bien. Enfin, après, je pourrais parler, mais c'est les mêmes étapes. Après, il y a des films où on va être nombreux, il y aura vraiment des grosses équipes. Pour le film de Sophie, c'était le cas. Et puis, il y a des films qui se font un peu tout seuls, ce qui était un peu le cas du mien, parce que c'est des techniques qui demandent à travailler seul, en fait, où on n'a pas le choix. On ne peut pas être plusieurs sur le plateau, on ne peut pas avoir plusieurs plateaux.
Parlons de ce film, Les bottes de la nuit.
Alors du coup, je vais parler de l'écran d'épingle, qui est une invention d'un Russe et d'une Américaine. Donc lui, c'était Alexandre Alexeïev et elle, c'était Claire Parker. Et dans les années 30, ils ont conçu ensemble en France, ils vivaient en France, ils ont conçu un outil qui avait pour but de faire de la gravure animée. Alexeïev était graveur, Claire Parker a voulu la rejoindre, elle était étudiante, elle voulait apprendre à graver... Et c'est devenu ensuite un couple. Et donc, ensemble, ils ont conçu un objet assez incroyable. Il faut imaginer un cadre métallique d'à peu près 50 par 70 cm, creux, donc vide, juste le cadre. Et ce cadre est rempli de tubes blancs de 5 cm à peu près, qui sont empilés les uns sur les autres. Et chaque tube contient une épingle 5 mm plus grande que le tube et peut coulisser. Donc, quand toutes les épingles sont enfoncées, on voit la tranche des tubes et ça fait un écran blanc. Et quand on fait sortir une épingle, elle projette une ombre sur la tranche des tubes et ça crée un gris. Et si on en fait sortir plusieurs, on obtient du noir. Et c'est comme ça qu'on dessine grâce aux ombres que les épingles projettent sur la tranche des tubes qui sont blancs. Donc c'est vraiment un travail de... Très particulier, il y a plus que 2 écrans d'épingles fabriqués par Alexeïev et Parker qui fonctionnent encore. Il y en a un au Canada et un que le CNC, le Centre National du Cinéma, a racheté en 2012. Et c'est celui sur lequel j'ai pu travailler. Et c'est vraiment un outil de musée. On a eu une formation de 3 jours pour apprendre à l'utiliser, pour ne pas l'abîmer. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le nombre de personnes qui peuvent travailler. Là, moi, j'étais tout seul à pouvoir travailler dessus parce qu'il n'y a qu'un seul écran. Et donc, il n'y avait pas le choix. Il y aurait eu deux écrans, peut-être j'aurais demandé à quelqu'un d'autre d'animer avec moi. Mais en l'occurrence, là, il n'y avait pas le choix.
Ils ont proposé à plusieurs réalisatrices et réalisateurs comme toi de passer combien de mois avec l'écran ?
Alors en fait, il y a une formation, il y a un appel à candidature pour n'importe qui. Enfin, il fallait envoyer un petit dossier en disant pourquoi on avait envie d'apprendre à utiliser l'écran d'épingle. J'ai fait partie des 8 sélectionnés et donc on a une formation de 3 jours donnée par Michèle Lemieux, qui est une réalisatrice canadienne, qui elle connaît très très bien l'écran d'épingle parce qu'elle a pris le relais après Jacques Drouin et après Alexeïev et Parker. Donc c'est elle qui a fait des films, enfin qui s'est occupée de l'écran d'épingle canadien. Et donc elle est venue en France et elle a aussi participé à la restauration de l'écran d'épingle qui était un peu abîmé, celui qui a été racheté par le CNC. Et donc, c'est elle, notre formatrice. Elle a une manière de parler de l'écran et de nous expliquer. Enfin, elle en parle presque comme d'un personnage. Elle en parle de manière très enthousiaste et très communicative. Enfin, sur les 8, on a tous adoré l'écran. Je pense que ça fait partie aussi... Enfin, c'est aussi grâce à elle. Et ensuite, donc, pendant ces 3 jours, on a eu l'écran 1h30 chacun. Parce que voilà, on était nombreux, on était 8. Donc on était tous un peu frustrés. Et le CNC nous a proposé de nous prêter l'écran d'épingle 1 mois chacun. Alors il fallait aller à Bois d'Arcy, vers Paris, là où sont les archives du film du CNC. Mais pendant moi, ce mois-là, j'ai fait un petit film qui s'appelle Le Chien, qui est visible sur Vimeo d'ailleurs, si vous tapez mon nom et Le Chien, vous trouvez. Ça dure 2 minutes. Et là, ça m'a permis de voir un petit peu... Qu'est-ce qui était possible avec l'écran d'épingle ? Quels étaient ses gros atouts ? Quels étaient les inconvénients ? Et après cette expérience, j'ai écrit Les bottes de la nuit en fonction de l'écran d'épingle. Donc j'ai fait une mise en scène qui colle à l'écran d'épingle, à ses avantages. On peut très facilement faire apparaître des décors ou les faire disparaître. On peut rendre les choses un peu vaporeuses, on peut... Les personnages aussi peuvent apparaître, disparaître. Enfin, c'est vraiment un outil qui permet la transformation. Alors qu'en volume, c'est difficile, par exemple, de faire partir un personnage dans la brume. On sait pas trop. Enfin, à part après rajouter des effets spéciaux ou alors peut-être avec des calques. Enfin, il y aurait sûrement des idées à trouver, mais ça serait assez laborieux. Sur l'écran d'épingle, faire partir quelqu'un dans le blanc, par exemple, c'est hyper facile. Donc voilà, c'est ces avantages-là, je les ai appris en faisant Le Chien et j'en ai profité ensuite pour écrire Les bottes de la nuit.
Tu le vois pas ? Le monstre ? Tu l'as pas vu ? Là ? Tu le vois ? Tu le vois pas ? Tu le vois ? Tu le vois pas ?
Bah non.
Viens. Pourquoi moi j'ai pas de bottes ?
Alors, de quoi il parle ce film, Les bottes de la nuit, Pierre-Luc ?
Alors, il parle de la rencontre entre un enfant et une petite créature de la forêt. Le gamin part de chez lui alors que ses parents ont des invités, c'est le soir. Il n'a pas envie d'aller se coucher, il préfère aller en forêt. C'est une nuit de pleine lune. Et donc, c'est là qu'il va rencontrer cette petite créature. C'est un film que je voulais très, très doux, très tendre. Donc, il commence de manière un peu effrayante. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va lui arriver à ce pauvre gamin dans la nuit ? Et en fait, il n'y a que des belles choses dans la forêt.
Et il y a une histoire d'amitié. Et l'amitié, d'ailleurs, c'est une thématique qui est au cœur de... Une guitare à la mer, ton film, Sophie ?
Oui, absolument. Ouais. C'est un film que j'ai vraiment construit avec je dirais plus en réfléchissant au personnage et à ce thème central de l'amitié, plus que qu'une histoire où il y a plein de rebondissements, etc. Bon, j'en ai mis quand même un petit peu au final dedans. D'ailleurs, Pierre-Luc m'a aidé à l'écrire, cette histoire. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais envie de se rencontrer des personnages qui, a priori, dans leur trajectoire de vie, n'allaient pas se rencontrer, viennent même de pays très éloignés. Il y a par exemple un capybara qui va s'immiscer dans l'histoire, qui est une espèce de réfugié climatique. Et en fait, ces personnages-là, mon idée, c'était qu'il y a plusieurs choses qu'ils partagent. C'est déjà qu'ils sont tous un peu, ils ont tous des solitudes assez prononcées. Ils sont un peu à l'écart de la société aussi. C'est une espèce de personnages à chaque fois un peu marginaux. Que ce soit la fouine, donc le personnage principal, qui est en errance totale, qui a pas vraiment de maison, etc., mais qui s'est habitué finalement à cette, au fait d'être sur les routes tout le temps. Il y a ce petit hérisson qui est super gentil, mais qui est un peu tout seul dans son tas de cailloux. Bon, il est un peu assez naïf comme ça, mais un peu trouillard aussi. Et il vit un peu à l'écart aussi, finalement, dans la forêt. Et ce capybara, donc, qui a dû fuir son pays, on imagine qu'il vient d'Argentine, et qui est à la recherche d'un de ses compagnons de musique. Et lui, qui est un peu obligé de se planquer parce qu'il fait un peu peur aux autres. Donc, du coup, il est un peu à la marge, etc. Et j'ai eu l'idée pour les rassembler, en fait, de passer par la musique. Et finalement, ce qui va vraiment les souder, c'est leur intérêt mutuel pour la musique. Et c'est comme ça qu'ils vont rentrer en amitié tous ensemble. C'est en faisant des petits bœufs ensemble. Et ça va les lier, tout ça.
Mais que c'est beau. On va écouter un extrait de cette milonga.
Mais tu sais, je crois qu'au fond, j'en ai assez d'aller de ferme en ferme.
Tu vas aller où alors?
Là-bas.
Là-bas, dans la forêt? Mais t'es folle, il paraît qu'il y a un monstre qui rôde depuis peu.
C'est toi le monstre de l'eau?
Ah non, non, moi je suis juste une fouine. Je suis tout le temps sur les routes, les chemins, avec ma valise, mes cravates. Et depuis pas longtemps, j'ai cette guitare.
Alors, tous ces films, tous vos films, on peut les voir déjà toute la semaine prochaine, entre le 23 et le 28 mars, donc dans le cadre du festival d'un jour, qui, je le redis, s'éparpillera entre Bourg-les-Valence, Valence et une dizaine de communes autour. Eh bien, toute la semaine prochaine, on pourra voir presque tous tes films, puisque tu es l'invité d'honneur de l'édition 2026.
Oui, oui, ils m'ont invité. C'était très chouette de leur part. Effectivement, il y aura quasiment tous mes films, je crois. Et Les Bottes de la Nuit est visible le soir de l'ouverture, donc vendredi soir. Et aussi, si je ne me trompe pas, il passe aussi jeudi soir au Navire. Voilà, et les autres, il y a d'autres films qui passent d'autres jours.
Et Une guitare à la mer, Sophie, on peut le voir comment?
Alors, on peut le voir, il est passé, il est feu au cinéma, avec le film de Pierre-Luc. En fait, ce qui est vraiment génial, c'est que nos films, ils sont dans un même programme qui s'appelle, bon, qui a le titre de mon film, parce qu'en général, dans les programmes comme ça, on prend le titre du film le plus long. Bon, c'est pas... C'est comme ça. Et donc, Une guitare à la mer, c'est un programme de trois films qui est sorti au cinéma en février dernier. Et donc, il y a Les Bottes de la Nuit, Une guitare à la mer, mais aussi Carpinchos d'Alfredo Soderguit, qui est un réalisateur uruguayen qui a fait un très beau film avec des capybaras. Donc, il circule encore un petit peu, mais bon, vraiment pas beaucoup. En tout cas, là, dans la vallée, il est plus trop montré.
Mais c'est février de l'année dernière. Hein,
c'est oui, pas, pardon, ouais. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'était 2025 et ouais. Pas 2026. effectivement. Après, moi, mon film, bon, pour ceux qui ont un abonnement Canal+, voilà, je sais que ils sont pas très nombreux, mais il est visible sur Canal+, quand même, le film. Sinon, il existe en DVD. Il est sorti, et donc là, sur le DVD, ben, il y a aussi les trois films, parce que c'est le DVD du programme qui est sorti en DVD.
Et vous avez aussi travaillé tous les deux sur le film qui s'appelle Le secret des mésanges, qui est sorti l'année dernière, je crois, d'Antoine Lancio.
22 octobre 2025.
Oui, c'est ça. Bravo. oui, on a travaillé ensemble.
À quel titre, chacun?
Alors, moi, j'étais co-scénariste du film et storyboarder sur le film, avec Antoine Lancio, donc le réalisateur et donc le scénariste aussi. Et après, c'est intervenue Sophie.
Oui, c'était assez chouette parce que je suis intervenue assez tôt dans l'élaboration. Alors moi, c'était sur la création graphique des personnages, à la fois les humains et les animaux. Et donc, j'ai suivi aussi les différentes versions du scénario. J'étais un peu derrière à chaque fois.
Oui, oui, on lui faisait lire régulièrement les étapes.
Parce qu'il y a eu pas mal de versions, mais souvent, enfin, c'est même le cas. À chaque fois qu'on écrit un long métrage, il y a beaucoup de versions de scénario là qui se succèdent. C'est un travail très, très long d'écriture. Et en fait, l'âge aussi des enfants pouvait varier d'une version à l'autre. Donc, du coup, derrière, j'étais en recherche graphique de ces personnages. Donc, j'ai fait pas mal de petites recherches. Et après, voilà, j'ai eu la chance aussi d'être, comme Pierre-Luc, j'ai été animatrice. Et lui était animateur donc, sur le film. Donc là, c'était une fois que la production était lancée, etc. On a bougé image par image les petits pantins en papier découpé. Donc, sur la fin de la fabrication du film.
De décortiquer les mouvements, les expressions aussi faciales et corporelles pour fabriquer ce mouvement fluide image par image que vous souhaitez pour vos personnages. Est-ce que ça fait de vous des spécialistes de la compréhension des autres? Voilà, est-ce que ça vous rend plus doué pour lire les sentiments, est-ce que ça vous rend plus doué pour le relationnel?
Vachement intéressante ta question, je m'étais jamais poser ça. Je pense pas. Tu diras, Pierre-Luc, si c'est la même chose pour toi, mais ça peut m'arriver de voir des... Mais c'est plus... c'est pas tellement sur les émotions, c'est peut-être plus sur la gestuelle, où des fois, je prends plaisir à regarder, un animal qui traverse comme ça, à regarder comment il bouge, ou une démarche, la démarche de quelqu'un, par exemple. Je me dis, il a une super démarche, ça serait un chouette personnage. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Après, facialement parlant, peut-être que je le fais inconsciemment, mais j'ai moins l'impression. C'est plus sur des gros mouvements d'ensemble comme ça.
Et oui, on est beaucoup à observer, c'est sûr. Et par contre, quand on observe, on a, enfin, moi, je sais que ça me fait ça, j'ai tendance à sortir de ce qui se dit. Je deviens un personnage extérieur qui observe. Et c'est vrai qu'on regarde du coup les expressions, les attitudes, les yeux qui clignent, les sourcils qui se froncent ou qui se lèvent. Enfin, mais du coup, voilà, on fait plus partie de la conversation à ce moment-là. On est plutôt un peu extérieur, ouais, en tant qu'observateur extérieur. Mais c'est super intéressant pour après nous retranscrire ça dans nos animations.
Je pense qu'on peut peut-être faire le rapprochement avec. Ce décalage dont tu parles, Pierre-Luc, et le fait, quand on fait des croquis aussi, le fait d'être là avec des gens, et en même temps, tu es un peu décalé parce que tu regardes, et ça peut être très perturbant, des fois, pour les gens avec qui tu peux discuter. Si tu les dessines en même temps, etc., ça crée un truc. Mais là, c'est clairement établi parce qu'il y a le dessin, il y a le fait de dessiner. J'ai un ami qu'on a en commun, là, je pense à Benoît Guillaume, qui est tout le temps un crayon à la main, qui dessine tout le temps, et je sais que ça peut perturber des gens parce que il est là dans la conversation, mais tu as ce regard qui te regarde en permanence, qui te dessine en même temps que tu parles, et tu es là, mais voilà,
ouais,
faut accepter
un dessinateur pareil, et c'est fou ce qu'il fait, mais c'est incroyable.
Vous êtes des entomologistes, en fait, des super observateurs, observatrices.
Oui et non, parce que c'est pas tout le temps qu'on est dans cet état-là. Moi, je sais que plein de fois, je suis dans le monde, voilà, et puis j'observe plus du tout parce que je participe. Mais de temps en temps, et puis c'est aussi une manière de travailler en animation, c'est que des fois, on va se filmer, même ça peut arriver assez souvent, et juste à dire une phrase en essayant de la jouer à peu près, on s'aperçoit de tout un tas de petits gestes ou de mini expressions ou de, je sais pas, le regard qui part à gauche ou à droite sans vraiment de raison. Et ça, si on arrive à le retranscrire dans l'anime, c'est vrai que ça peut vraiment apporter de la vie à notre marionnette, quoi, à notre animation.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on peut regarder sur Internet, en accès libre, il y a le making-of du film sur lequel vous avez travaillé tous les deux, Le secret des mésanges. Et on voit vraiment, au moment de découper image par image, la réflexion, je fasse bouger les yeux, enfin, c'est un truc de fou.
Oui, alors ça fait longtemps qu'on est dans ce métier, alors, parce que souvent on nous dit, mais quelle patience. Moi, j'ai perdu la notion de patience. Je sais dès le départ que ça sera long, c'est intégré. Je pense que Sophie, c'est pareil. On sait si on va faire un film de 10 minutes, ça, on va pas le faire en 2 semaines, quoi. Que ça va durer 1 an ou quelque chose comme ça. Et c'est tellement intégré que ça nous paraît complètement normal. Et le côté fou, on l'a perdu. Enfin, en tout cas, ça ne nous paraît pas fou.
Oui, c'est ça. On a complètement intégré cette notion-là. Et moi, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'adore dans le cinéma d'animation. C'est ce temps qui est complètement étiré au moment de l'animation. Bon, évidemment, il y a plein d'étapes avant où c'est long, tout ça. Mais c'est vraiment très fort au moment de l'animation. Et je trouve qu'à une période ou à une époque où on veut aller de plus en plus vite et gagner de plus en plus de temps, moi, ça me rassure presque d'être dans ce temps hyper étiré et qui est nécessaire pour comprendre et pour insuffler de la vie à ces petits personnages.
Ouais, il y a le temps et il y a la matière. On continue à bosser avec nos mains, à découper, à coller, à bidouiller. Et du coup, on est vraiment un truc à l'ancienne. C'est lent et c'est manuel, quoi.
Mais ça rend vos métiers tellement désirables, d'ailleurs. Enfin, moi, quand j'ai regardé tous ces making-of et tout ça autour de votre travail pour préparer l'émission, je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment trop cool.
Ouais, c'est vrai qu'on a de la chance quand même, oui, de travailler là-dedans, c'est sûr.
Ouais, je me plains jamais de mon métier.
Bah, il y a la chance, mais il y a aussi l'acharnement, parce que ce dont on n'a pas encore parlé, c'est le temps qu'il faut pour faire un film, c'est-à-dire le financer. Cette chose-là, elle prend des années.
Ça prend des années et des fois, ça ne marche pas. Mais bon, ça fait partie, ouais, des aléas du métier, on va dire. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses super. Enfin, voilà, si c'est refus sur refus, c'est vrai que ça peut être très, très dur, mais il y a toujours des projets qui arrivent à se monter quand même. Et là, c'est une telle récompense. Enfin, c'est tellement génial quand on peut travailler sur nos propres films et être payé pour ça. Enfin,
ouais, c'est un vrai cadeau quand ça arrive. Et c'est vrai qu'il y a une notion de mental quand même hyper fort et d'endurance aussi. L'endurance, c'est aussi quand les films se font et voilà, tenir aussi toute la durée, mais aussi au moment de l'écriture. Et parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Pierre-Luc, on n'est jamais assuré que nos films vont se faire. Et même si on a déjà des films qui ont marché et tout, c'est jamais garanti finalement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui sont déposés dans les mêmes commissions. Donc voilà, on se retrouve à attendre des réponses. On n'est pas garanti. Alors ça aide un peu évidemment quand on a fait des films avant, mais on n'est jamais garanti en fait d'avoir ces aides. Et puis là, vu le contexte, on est un peu inquiet aussi de savoir si on va continuer à être financé comme ça, parce que et oui, c'est pas évident, parce qu'on y croit à fond à ces univers, à ces personnages. Une guitare à la mer, il a failli pas se faire. Et en fait, je crois que j'étais plus triste de me dire que ces personnages n'allaient pas exister que pour moi-même de pas faire le film. J'avais envie de les voir en fait, parce que j'avais tellement travaillé sur eux que j'avais l'impression qu'ils existaient déjà. Et j'étais au moment où j'étais pas sûre de le faire, j'étais plus triste pour les petits, la fouine, le hérisson finalement. J'ai l'impression que pour moi. Et voilà. Mais oui, c'est très très long. Effectivement, on est dans des temps complètement étirés. Et ce qui est pas mal, c'est d'avoir plusieurs casquettes et de bosser aussi sur les films des autres. Ça fait ça nous fait vivre. Et puis ça nourrit notre travail. Et voilà. Et ça nous fait sortir aussi de cette petite bulle qui est très agréable. Mais des fois, c'est bien aussi d'être confronté à d'autres postes et puis rencontrer d'autres réalisateurs, réalisatrices.
Oui, là, tous les deux, on revient de Rennes, d'un studio qui s'appelle JPL Film, où se tourne en ce moment un long métrage qui s'appelle Séraphine, de Sarah Vandenboom. Et voilà, c'est un film en marionnette avec des costumes très réalistes, des visages qui sont remplaçables entièrement pour donner des expressions différentes. Donc, une nouvelle expérience pour tous les deux. C'était très chouette. Ouais.
On va peut-être parler des films que vous préparez en tant que réal, je veux dire. Sophie, tu veux évoquer le prochain univers du film que tu as écrit?
Alors oui, rapidement, parce que c'est encore pas trop trop... Enfin, j'ai avancé, mais c'est encore assez fragile. En gros, je me suis lancée dans l'écriture d'un long métrage, sachant que c'est extrêmement difficile de financer des longs métrages en stop-mo, donc je reste très prudente quand j'en parle. En tout cas, je vais dire juste quelques mots. C'est sur le thème, enfin les thèmes principaux du film, c'est sur les thèmes du deuil et de la résilience. Et c'est sur des personnages qui ont vécu des choses assez traumatiques, que ce soit un petit garçon d'une dizaine d'années, qui se retrouve orphelin et qui va rencontrer une vieille femme qui, elle, a vécu aussi des choses compliquées au même âge que lui, en fait, à 10 ans à peu près, dans un autre pays, en Irlande. L'histoire se passe en Bretagne dans les années 20, donc je l'ai située juste après la Première Guerre mondiale, et j'ai fait un gros travail de recherche historique, que ce soit au niveau de la Bretagne, au niveau de l'Irlande au milieu du 19e siècle, qui me passionne beaucoup, c'est chouette. Après, je vais voir si j'arrive à décrocher des aides à l'écriture pour pouvoir continuer à faire tout ce travail. Et j'ai commencé aussi à faire des petits prototypes de marionnettes pour les concrétiser un petit peu, ces personnages.
Qui sont magnifiques, je les ai vus. Et toi, Pierre-Luc, tu travailles sur quoi?
Alors, je n'ai pas encore commencé réellement, mais il y a deux projets qui s'annoncent. On voudrait adapter avec Antoine Lanciot un livre qui s'appelle « La bergère en main bleue », qui est un livre qu'on a fait à trois. J'ai écrit l'histoire, Samuel Ribeyron a fait les illustrations et Amélie Les Crayons, qui est une chanteuse qui vit en Bretagne. Amélie Les Crayons a écrit des chansons autour de cette histoire. Ben, d'ailleurs, le livre est né à son initiative. Elle m'a demandé d'écrire une histoire pour elle écrire des chansons autour de ce conte. On voudrait l'adapter en long métrage, en papier découpé. Donc c'est le travail d'écriture va commencer dans les mois qui viennent là. Et en parallèle, je me suis dit, parce que j'ai déjà eu l'expérience d'un long métrage que je n'ai jamais pu financer, et pendant quasiment 10 ans j'ai essayé de le faire avancer, enfin on y croyait vraiment à fond, et au final il s'est pas fait. Et pendant ces 10 ans j'ai pas fait de court métrage, j'étais à fond là, sur ce long. Et je ne veux pas renouveler l'expérience. Je dis, je vais continuer à faire des cours, même si, en menant en parallèle la recherche d'argent pour un long métrage. Donc, le cours, je ne peux pas encore parler de l'histoire, c'est un peu tôt. Par contre, j'ai la technique, a priori, ça serait sur une plaque de plâtre que je viens gratter, graver, peindre. Et je peux effacer l'image après avec une lame de cutter, par exemple, en venant frotter pour faire le dessin suivant. Et ainsi de suite. C'est une super technique qui permet de laisser plein de traces. Et je voudrais travailler avec les traces laissées aussi par l'animation précédente. Enfin, ça sera sûrement un peu cracra comme film. Mais ouais, il y a beaucoup de matière, quoi. Mais c'est ce que j'aime aussi. Donc voilà, j'ai la technique, j'ai pas encore l'histoire. Enfin, j'ai des idées, mais c'est un peu tôt pour en parler. Ouais.
Dans le cadre du festival, d'ailleurs, j'ai vu que tu proposais aux professionnels et aux étudiantes, j'imagine, une masterclass. C'est rigolo, d'ailleurs, j'ai lu sur un flyer que tu étais représentant de technique extrême de l'animation. Oui,
c'est pas moi qui aurais dit ça. Hein, ça
mais vient... c'est assez juste, je trouve. Ça, ah ouais. C'est pas mal.
Ça vient de Laetitia Charbonnier, ça, de l'équipe. Oui, je ne sais pas si c'est extrême. Ça a déjà été fait, l'animation sur plâtre. Après, c'est vrai que c'est des techniques qui demande de se lancer dans le vide un peu. Et on peut pas trop faire de repentir, quoi. Il faut y aller. Et en fait, ce qui devient un peu extrême là, parce que j'aimerais faire ce film sans storyboard. Donc là, effectivement, c'est un peu plus acrobatique, on va dire. Mais c'est une volonté de ma part de garder de la liberté de mise en scène jour après jour, quoi, de pas tout savoir à l'avance. J'aurai l'histoire, j'aurai sûrement aussi une bande sonore du film pour au moment où je commence à travailler. Mais par contre, je saurais pas, je sais pas si c'est un plan large ou un plan serré ou ni comment je passe d'un plan à l'autre, si je fais des transitions sur le plâtre ou si je fais vraiment un cut. Voilà, tout ça, j'aimerais l'improviser au fil du tournage, quoi, au fil des mois de tournage. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'idée de la technique, mais je n'ai pas encore l'histoire. Donc, le premier truc, là, à partir d'avril, je me mets à fond sur l'écriture de ces projets. Ouais.
Est-ce qu'on peut parler du festival d'un jour, peut-être ? Y a énormément de choses qui sont proposées, comme on a pas mal parlé des métiers. Je vais conseiller aux auditrices et aux auditeurs d'aller voir les rencontres métiers qui doivent être quand même assez passionnantes. Je précise que tout est gratuit, mais qu'il faut réserver et puis adhérer à l'équiper.
C'est ça.
Et donc, les rencontres métiers, il y a une rencontre avec une réale qui s'appelle Isabella Bartuzic, une rencontre avec une animatrice qui s'appelle Lorelai Paliès. Mm-hmm. Et une rencontre avec un ingé son, on n'a pas beaucoup parlé du travail du son, mais Flavien Van Azevelt, voilà, donc qui expliqueront leur façon de travailler.
C'est ça, Isabella, elle est plutôt dans la peinture animée sur vitre, Lorelai, c'est plutôt la marionnette animée, et puis ben, Flavien, le son, ouais. Donc, le son est tellement primordial sur les films. Non, je sais plus. Oui, on a travaillé. Tu travailles avec Loïc Burkhardt aussi sur.
Oui,
une
sur
guitare.
Une guitare à la mer. Oui, tout à fait.
Et pareil sur les bottes, sur les bottes de la nuit.
C'est un ingé son avec qui vous travaillez souvent, quoi, qui est du coin.
Oui, alors moi, Loïc, je l'avais rencontré à l'école de la Poudrière, une école donc tu as évoqué là en début d'émission. C'est une école qui apprend le métier de réalisateur, réalisatrice de films d'animation. Et Loïc, c'était un de nos intervenants. Donc, on avait travaillé avec lui sur nos films de fin d'études ou d'autres petits films qu'on faisait dans le cadre de l'école. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'incroyable là, pour le son. Il est très généreux dans son travail et il se met vraiment au service des films. Il a une capacité à rentrer dans les univers de chacun et de vouloir vraiment que le réalisateur ou la réalisatrice soit satisfaite. Et il a une super écoute. Donc effectivement, j'ai travaillé sur quelques films avec lui. Bah, Les Escargots de Joseph, mon premier film, c'est aussi Loïc qui avait fait le son. Et donc Une guitare à la mer, c'était une de mes conditions de départ vis-à-vis de mon producteur breton. C'était de faire le son avec Loïc et de l'inscrire dès le début dans le processus de fabrication du film. Parce qu'on a Vite fait, le son, souvent, c'est un peu ce qui arrive en dernier. Enfin, c'est l'étape qui arrive un peu tardivement dans la fabrication du film. Et souvent, il y a des soucis de financement et on peut être aidé, on peut faire des coproies avec d'autres régions. Et c'est souvent le son qui part dans d'autres régions. Et quand on veut travailler avec quelqu'un ici qui est en Rhône-Alpes, c'est parfois compliqué. Donc, j'avais insisté pour travailler avec lui dès le départ. Et puis, donc, c'est lui qui a fait le son sur pas mal de tes films, quasiment tous.
Et le son, moi, plus ça va, plus je me rends compte de l'importance qu'il a dans un film. Quoi. La même scène avec un son différent, le spectateur va la recevoir complètement différemment, sans réaliser que c'est le son qui vient lui faire changer de point de vue. Et maintenant, ouais, ça me paraît tellement essentiel, un film. Voilà, et Loïc, comme disait Sophie, il sait s'adapter à nos envies, il propose aussi plein de choses, et c'est génial de travailler avec lui. Ouais,
il y a une expérience qui est marrante à faire quand on regarde un film, c'est de le regarder juste avec l'image et juste avec le son. Et c'est là qu'on se rend compte que le son, en fait, il raconte énormément de choses et on est presque plus en immersion, finalement, je trouve, avec le son qu'avec l'image. C'est assez étonnant. On peut vraiment se fabriquer des images à partir du son. Par contre, de regarder un film sans son et d'essayer d'imaginer le son, je trouve ça presque plus compliqué.
Bah, le son, en fait, vient nous englober. L'image, ça reste un truc visuel qu'on capte avec les yeux et il n'y a pas l'image derrière. Alors que le son, il est autour de nous, quoi. Il y a un truc assez magique. Donc,
Et la lumière, on n'en a pas parlé précisément de la lumière.
Et la lumière, oui, dans les métiers de stop motion, elle est hyper importante, et notamment en papier découpé, mais je trouve surtout aussi en marionnette. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est important d'avoir quelqu'un à la lumière en qui on a confiance. Et souvent, avant de démarrer un film, enfin de plus en plus, j'ai l'impression que ça se fait, c'est que le chef opérateur ou la chef opératrice demande aussi à avoir des... En tout cas, c'était le cas de Nadine, la chef opératrice Nadine Bus, qui a travaillé sur Une guitare à la mer. Elle aime bien avoir des références, donc soit des images, des photos ou des tableaux qui, moi, me parlent. Et je lui ai donné pas mal de petites références comme ça avant qu'on travaille ensemble pour qu'elle puisse aussi s'inspirer d'ambiance que j'aimais bien et que j'imaginais pour le film. Et c'est vrai que c'est un poste qui est vraiment très très important. Et par exemple, pour mon film, je suis très contente d'avoir travaillé avec elle et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui remarquent la lumière, alors que ce n'était pas forcément le cas avant sur d'autres films sur lesquels j'ai pu travailler. Là, il y a eu beaucoup de gens, et qui ne sont pas forcément du tout du milieu du film d'animation, qui trouvent que la lumière est... qui remarquent le travail de la lumière sur ce film.
Et en papier découpé, on peut aussi... moi, j'ai fait un film qui s'appelle Le Loup Blanc, et c'était Sarah Spongam, ma chef opératrice. Et je me souviens de la manière dont elle éclairait de ses feuilles de papier. Alors, j'avais par exemple une chambre d'enfant. Je l'avais dessinée, moi, c'était de manière très neutre, quoi, comme si c'était une lumière partout la même. Et elle s'est amusée à éclairer comme s'il y avait une entrée de lumière par une fenêtre, donc avec des projecteurs et des petites découpes. Et d'un seul coup, le dessin prenait une profondeur folle. Donc, même avec du papier, on arrive à créer des choses qui, moi, m'avaient beaucoup surpris. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point on pouvait aussi éclairer des dessins, en fait. Et c'est vrai qu'en volume, là, le travail, il est essentiel. La lumière vient mettre en valeur ou vient détruire tout ce que les décorateurs et les marionnettistes ont fait. Donc, il faut quelqu'un de fort.
Il faut faire équipe, quoi.
Il faut faire équipe.
Alors revenons au festival d'un jour, vous avez encore toute la semaine pour en profiter, il faut donc réserver même si c'est gratuit. Il y a un temps fort, c'est la nuit la plus animée, c'est quand ?
C'est vendredi soir.
C'est le vendredi soir à la Comédie de Valence.
Oui.
Donc plein de cours de long, tous les formats.
C'est trois projections de cours, je crois.
De cours, ouais.
Ouais, qui se succèdent, il y a trois séances. Et la dernière est vers 11h, je crois.
Oui, je me souviens plus. Le petit programme est facile à trouver. Il y a tous les horaires. Mais c'est vrai, et c'est des films en général assez récents que Laetitia et Anne-Sophie voient dans les festivals pendant l'année. Et puis d'autres, parce qu'il y a un petit comité artistique qui choisit les films. Et voilà, et en général, c'est une bonne sélection, quoi, de ce qui se fait. et des meilleurs films de l'année.
La nuit la plus animée. Et il y a aussi, donc j'en ai parlé, des rencontres avec les auteurs, les autrices. Il y a des ciné-concerts. Et puis, il faut dire que c'est quand même pour toute la famille. Il y a des séances pour les enfants. Il y a aussi des ateliers pour fabriquer, pour faire de l'animation avec des Lego, je crois. Enfin, il y a plein de choses. Allez donc sur le site du Festival d'un jour. C'est organisé par une asso qui s'appelle L'Équipée, c'est ça?
C'est L'Équipée, oui. Et le samedi, moi, juste, je fais une petite démonstration d'animation sur plâtre, justement. Donc, la technique que je vais utiliser pour ce futur court-métrage.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui vous semble important de dire sur le cinéma d'animation ou sur, je ne sais pas, des choses merveilleuses que vous auriez vues récemment? Ou juste bien, pas seulement merveilleux. Non, mais
on a vu plein de trucs super. En plus, j'ai fait pas mal de festivals, donc des films incroyables, j'en ai vu.
Peut-être juste parler de l'émission sur Arte Court Circuit, parce que c'est vrai que nous, on connaît bien, mais peut-être que...
Oui, c'est une bonne idée.
En fait, quand on va dans le moteur de recherche du site d'Arte et qu'on tape Court Circuit, en fait, on trouve donc des courts-métrages en prise de vue réelle, mais aussi beaucoup de films d'animation, beaucoup pour adultes, et qui ne sont pas tant diffusés que ça, et qui sont vraiment super. Il y en a qui sont incroyables. Et ce qui est super aussi, c'est que c'est souvent suivi d'un tout petit making-of, une interview de la réalisateur, enfin, réalisateur qui dure vraiment 3-4 minutes après. Et c'est vrai que c'est une chouette manière de découvrir aussi des courts-métrages qu'on n'a pas l'occasion de voir facilement, en tout cas.
Bah, Les Filles de l'eau, par exemple, le film de Sandra Desmazières qui vient de recevoir le César, est sur le site d'Arte. Il y a aussi Une fugue d'Agnès Patron. Enfin, il y a un paquet de pépites sur ce site.
C'est vrai que je n'ai pas parlé des récompenses et de la notoriété internationale que vous avez maintenant, parce que vos films ont été primés au Festival d'Annecy. J'en parle parce que c'est un des festivals qu'on connaît le mieux ici en France, c'est le festival du cinéma d'animation, mais partout ailleurs dans le monde, vous avez eu plein de reconnaissances. Est-ce que ça change quelque chose, ça, pour vous?
Ça fait plaisir. Après, moi, je suis content que... Enfin, Les Bottes de la Nuit, c'est le premier film qui a autant de succès, moi, dans ce que j'ai fait. Je suis content que ça arrive tardivement, que ça ne me monte pas à la tête, quoi. Je suis vraiment plus dans le projet futur et dans le... J'espère juste que ça me servira à financer plus facilement les projets futurs, ouais, c'est ça.
Et oui, ça fait plaisir. C'est sûr que c'est, on va pas le nier, c'est une super reconnaissance du travail. Et après, effectivement, ça, bon, il faut rester concentré et continuer à travailler. Et moi, ce qui m'a fait plaisir sur Une guitare à la mer, c'est qu'il a reçu beaucoup de prix du public. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait, parce que j'étais pas du tout sûre qu'il allait parler à plein de gens, ce film. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée, tous ces prix du public.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci Manu.
Merci Manu.
Merci à tous les deux d'être venus dans la collective. Et on essaiera de vous réinviter plus souvent, vous et vos collègues, puisqu'on a compris que c'était une équipe, ces histoires de films d'animation. Parce qu'il y a quand même vraiment ici un nombre de gens incroyables.
Ah oui, il y a un vivier de gens qui travaillent dans l'anime. Vous pouvez piocher.
Alors vous viendrez vous aussi dans le studio B de Radio Saint-Fé. Et à tous ceux et toutes, je souhaite une très bonne fin de journée dans la vallée.